إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc ce soir l'étude de cet épître immense de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé Les trois fondements. Nous avons vu dans l'assise de la semaine dernière les questions liées à l'iman, la foi, ainsi que ses piliers, qui sont au nombre de 6, comme on l'a vu, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a vu que la foi au destin, elle comprend 4 degrés. Le premier degré, c'est le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses. C'est-à-dire que rien ne s'est passé, rien ne se passe, et rien ne va se passer sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'en ait la connaissance. Car Allah a connaissance de toutes choses. Ensuite, le deuxième degré, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ces choses. Celles qui se sont passées, celles qui se passent et celles qui vont se passer. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ces choses sur al-lawh al-mahfouz. Ensuite, le troisième degré, c'est la volonté. C'est-à-dire que rien ne se produit dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas accomplir une chose en dehors de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que tu accomplis, tu l'accomplis par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah veut, cela se produit. Ce qu'il ne veut pas, cela ne se produit pas. Enfin, le quatrième degré, c'est que tout ce qu'il y a dans cet univers est la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les serviteurs, ainsi que leurs œuvres. Ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Lorsqu'Allah veut une chose, il la crée. Et toutes ces choses qui sont dans cet univers font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les œuvres de ses serviteurs, même les œuvres que tu accomplis, elles font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui les a créées. C'est pour cela que lorsqu'on dit qu'un serviteur, il fait une chose, cette chose qu'il a faite, elle fait en réalité partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc les 4 degrés de la foi en destin que nous avons donc réévoqués ici de manière concise, et ce afin de clarifier cette question. Nous allons donc voir dans l'assise de ce soir ce qui concerne le 3e degré de la religion, qui est l'ihsan, la bienfaisance. L'auteur rahimahullah ta'ala, il a dit al-martabatu thalitha al-ihsan. Le 3e degré, c'est-à-dire le 3e degré de la religion, c'est al-ihsan, la bienfaisance. Al-ihsan, dans la langue arabe, cela désigne le fait de parfaire une chose, accomplir cette chose à la perfection, c'est-à-dire que tu l'accomplis de la meilleure manière. Et al-ihsan, la bienfaisance, elle se divise en 3 catégories. La première catégorie d'al-ihsan, c'est al-ihsan, la bienfaisance, entre le serviteur et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est visé ici par le Shaykh, rahimahullah ta'ala. La bienfaisance entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est ce qu'on va voir en détail, incha'Allah ta'ala. La deuxième catégorie, c'est l'ihsan, la bienfaisance entre le serviteur et les gens. C'est-à-dire que tu sois bienfaisant envers autrui. Et la troisième catégorie, c'est la bienfaisance dans tes œuvres. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis une chose, lorsque tu accomplis une œuvre, lorsque tu fais un acte, tu l'accomplis de la meilleure manière. Et ce, jusqu'à le concrétiser. Donc on va parler ici principalement de la première catégorie de bienfaisance, qui est la bienfaisance entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifiée lorsque Jibril alayhi salam l'a interrogé devant les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme on va le voir après dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Donc l'ihsan,
entre le serviteur et son seigneur, cela consiste à ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et cette bienfaisance, elle va te pousser à quoi? Elle va te pousser à parfaire ton œuvre. L'œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonnée, tu vas l'accomplir à la perfection, afin qu'elle soit valide. Et cette œuvre, pour l'accomplir à sa perfection, tu dois l'accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shir rahimahullah ta'ala, il a dit « Al-martabatu thalitha, al-ihsan, wa huwa ruknun wahid, an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innahu yarak. » Il dit à l'ihsan, le troisième degré, c'est la bienfaisance, qui est composée d'un seul pilier. C'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et comme on l'a vu, le shaykh rahimahullah, il a tiré cette phrase de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en réponse à Jibril, alayhi salam, qui l'a interrogé au sujet d'Al-Ihsan. Donc, ceci est le pilier de la bienfaisance. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. On voit donc que cette bienfaisance, elle est en réalité composée de deux degrés. Et l'un est plus éminent que l'autre. Le premier degré qui est le plus éminent, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu as atteint un degré de certitude en termes de foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu l'adores comme si tu le voyais devant toi. Tu n'as aucune hésitation et aucun doute quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enjoint cet ordre. Donc tu l'accomplis comme si Allah subhanahu wa ta'ala était devant toi et que tu le voyais. Et celui qui atteint ce degré, il a certes atteint le degré le plus éminent de la bienfaisance. Ceci ne peut être atteint que si tu as une certitude complète, que si tu as une sincérité complète. Tu adores ainsi Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le voit pas dans ce bas monde. Mais les croyants le verront dans l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala fera grâce de sa vision dans l'au-delà. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les bienfaisants en leur accordant le paradis et en leur accordant sa vision dans l'au-delà, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset 26 de surat Yunus, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ » À ceux qui sont bienfaisants et réservés la meilleure récompense et davantage. Ceux qui sont bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils le voyaient ici-bas. Ils vouent leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve la meilleure récompense, al-husna, c'est-à-dire le paradis. Il les fera entrer dans la demeure des délices pour y demeurer éternellement. Waziyada et davantage. Et les savants du tafsir ont dit que ce qui est visé ici par la ziyada, par l'ajout, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et la cause de cette vision, c'est quoi? C'est la bienfaisance. Lilladina ahsanu, à ceux qui ont été bienfaisants. C'est-à-dire ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas, comme s'ils le voyaient. Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé la meilleure récompense. Il les fera entrer au paradis et il leur a ajouté à cela la vision de son noble visage subhanahu wa ta'ala. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les bienfaisants. Le deuxième degré de la bienfaisance, qui est moindre que le premier, c'est que si tu ne vois pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que lui te voit. Et ce degré, les savants l'appellent martabatul muraqaba, le degré de l'observation ou de la surveillance. C'est-à-dire que tu prends conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de ta situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu caches dans ta poitrine. Ainsi, si tu as conscience de cela, alors il ne convient pas que tu désobéisses à Allah subhanahu wa ta'ala ou que tu t'opposes à l'un de ses ordres, alors qu'il te voit et qu'il a connaissance de ta situation. Et ceci est une bonne situation pour le croyant. Le fait qu'il se rappelle de cela et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait qu'Allah l'observe, car il a conscience qu'Allah a connaissance de toutes choses. Ceci est une bonne situation, mais elle est en dessous de la première. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, ceci va te mener à parfaire tes adorations et à les accomplir de la meilleure manière, car tu sais qu'Allah t'observe au moment où tu accomplis ces actes. Donc, pour résumer, l'ihsan, la bienfaisance, elle se compose de 2 degrés. Martabatul mushahada, le degré de la vue, c'est-à-dire la vie du cœur. C'est-à-dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, tellement tu as atteint la perfection en termes de foi et de certitude. Et le 2e degré, c'est martabatul muraqaba, le degré de l'observation ou de la surveillance, et qui est moindre que le premier, et c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en étant conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'observe. Ceci est donc ce qui concerne la bienfaisance, al-ihsan, qui est, comme on l'a dit, le 3e degré de la religion. Comme on a dit, la religion, elle est composée de 3 degrés. Le premier est l'islam, le 2e est l'iman, et le 3e est l'ihsan. Donc, afin de clarifier cette question au sujet des degrés de la religion, vous pouvez prendre une feuille, et sur cette feuille, vous dessinez un grand cercle de la taille de la feuille. Et ce cercle-là, c'est le cercle de l'islam. Et c'est le plus vaste. Car c'est celui qui comprend le plus de personnes. Car même le munafiq, même l'hypocrite, il rentre dans ce cercle. Pourquoi ? Car ici-bas, on le considère comme musulman. Car il accomplit en apparence les actes des musulmans. Donc on se comporte avec lui comme on se comporte avec les musulmans pour ce qu'il laisse apparaître comme acte de l'islam. Mais celui-ci, il n'a pas la foi. Et rentre dans ce cercle également même ceux qui ont la foi la plus faible. Même celui qui n'a qu'un grain de moutarde de foi, il rentre dans ce grand cercle qui est le cercle de l'islam. Ensuite, dans ce cercle, vous dessinez un 2e cercle un peu plus petit. Et ce cercle, c'est le cercle de la foi. Il est donc plus restreint et plus petit que le cercle précédent. Et c'est le cercle d'Al-Iman, le cercle de la foi. Dans celui-ci, l'hypocrite, il ne rentre pas dans cela, car il n'a pas la foi. Il ne fait pas partie des gens de la foi. Mais rentrent dans ce cercle seulement les croyants. Les croyants à la foi complète et les croyants à la foi défaillante. Rentre donc dans ce cercle le croyant pervers ainsi que le croyant vertueux. Enfin, dans ce cercle, vous faites encore un autre cercle plus petit que celui-ci. Et c'est le cercle de la bienfaisance, qui est le degré le plus restreint, qui est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils le voyaient et qui ont conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit. Ceci sont donc les 3 degrés de la religion. Comme vous voyez, il y a le cercle le plus grand qui est le cercle de l'islam. Ensuite, il y a le cercle de la foi, puis le cercle de la bienfaisance. Donc tout bienfaisant sera forcément croyant et musulman, mais ce n'est pas tout musulman qui est croyant et bienfaisant. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, comme à son habitude, il a mentionné la preuve à ce sujet. Et il a dit, rahimahullah, « Wad dalil » et la preuve, c'est-à-dire la preuve au sujet de la bienfaisance. « Qawluhu ta'ala, inna allaha ma'al ladhina attaqaw, wal ladhina hum muhsinoun. » Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Ceci est donc une preuve du premier degré de la bienfaisance et du plus haut degré de la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui l'ont adoré comme s'ils le voyaient et qui l'ont adoré de la meilleure manière en lui vouant un culte exclusif et en se conformant à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah est avec eux, c'est-à-dire qu'il les soutient, qu'il les aide, qu'il les préserve, qu'il les protège et qu'il leur accorde la réussite et la rectitude. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un 2e verset. Et il a dit, « Wa qawluhu ta'ala, wa tawakkal ala al-azizi ar-rahim, alladhi yaraka hina taqoum, wa taqallubaka fis-sajidin, innahu huwa as-sami'u al-alim. » Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment, celui qui entend tout et celui qui sait tout. Et ce verset, c'est une preuve du deuxième degré de la bienfaisance. C'est-à-dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en étant conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et te voit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ce verset, « Watawakkal », c'est-à-dire « place ta confiance ». Remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes affaires. « Watawakkal ala al-aziz ar-rahim » et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. « Alladhi yaraka hina taqoum » celui qui te voit quand tu te lèves. C'est-à-dire lorsque tu te lèves pour accomplir une adoration. Lorsque tu te lèves pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. « Alladhi yaraka hina taqoum » وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ et il voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit lorsque tu es incliné. Il te voit lorsque tu es prosterné. Il te voit lorsque tu es debout en prière. Et il te voit dans toutes tes situations, que ce soit lors de la prière ou lors des autres adorations. Allah subhanahu wa ta'ala te voit à tout moment. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ et de celui qui entend tout et qui sait tout. C'est-à-dire qu'il entend l'ensemble de tes paroles et la connaissance de l'ensemble de tes actes et l'ensemble de tes faits et gestes. Toute parole que tu prononces, Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance et il t'observe. Ensuite, le shaykh rahimahullah, il a dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِسْتُفِيضُونَ فِي tu ne te trouves dans aucune situation. Tu ne récites aucun passage du Coran et vous n'accomplissez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'accomplissez. Et ceci est également une preuve du deuxième degré de la bienfaisance. Et ceci nous incite à se rappeler constamment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe dans l'ensemble de nos actes. En effet, il dit dans ce verset « وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ » tu ne te trouves dans aucune situation. Et ici, il s'adresse à son messager sallallahu alayhi wa sallam. « وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ » et tu ne récites aucun passage du Coran. « وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ » et vous n'accomplissez aucun acte. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à l'ensemble de la communauté. « وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ » et vous n'accomplissez aucun acte, quel que soit cet acte, que ce soit une œuvre de bien ou une œuvre de mal. « Illa kunna alaykum shuhudan » sans que nous soyons témoins. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit lorsque tu accomplis cet acte. « Idh tufidhuna fih » au moment où tu fais cet acte, au moment où tu l'accomplis, Allah subhanahu wa ta'ala te voit et il t'observe. Si c'est un acte de bien, Allah subhanahu wa ta'ala te rétribuera en bien pour cela. Et si c'est un acte de mal, alors empresse-toi de te repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en implorant son pardon et en accomplissant des œuvres pieuses afin qu'il efface cette mauvaise œuvre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'observe à tout moment et il a connaissance de toutes choses. Donc si tu es constamment conscient de cela, tu as alors atteint le degré de la bienfaisance et tu fais partie des bienfaisants, incha'Allah ta'ala. Donc tout ceci, cela concerne la bienfaisance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la bienfaisance du serviteur envers les créatures, alors ceci consiste à ce que tu prodigues le bien à autrui et que tu t'abstiennes de nuire à qui que ce soit. C'est-à-dire par exemple que tu offres de la nourriture à celui qui a faim, tu vêtis celui qui en a besoin, et qu'il ne provienne de toi que du bien, et que tu t'abstiennes de causer du mal à quiconque. Car les gens, à ce sujet, quant à la bienfaisance envers les créatures, ils sont de trois catégories. Il y a des gens de qui ne provient que du mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ces gens et de nous préserver de faire partie de ces gens. La deuxième catégorie, ce sont ceux de qui il provient du bien, il provient du mal et des nuisances. Et la troisième catégorie, qui est la meilleure des catégories, c'est de ceux de qui ne provient que du bien. Lorsque tu es avec lui, tu ne fais que profiter de son bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces gens qui sont le plus haut des degrés. Donc le musulman, il doit veiller à être bienfaisant envers autrui, en prodiguant le bien aux gens et en s'abstenant de leur causer du tort. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. Il a dit dans son noble livre, au verset 195 de Surat al-Baqarah, « وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » Et soyez bienfaisants. Certes, Allah aime les bienfaisants. Donc lorsque tu es bienfaisant envers les gens, ceci est une cause pour que tu obtiennes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es bienfaisant envers tes voisins, lorsque tu es bienfaisant envers tes frères et sœurs, lorsque tu es bienfaisant envers tes parents, lorsque tu es bienfaisant envers les musulmans ou envers les gens en général, même les mécréants, alors tu obtiens ainsi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le musulman, il doit être bienfaisant et il doit être juste envers toutes les créatures, même envers les animaux. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abi Ya'la, Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu, Allah a certes enjoint la bienfaisance en toute chose. Donc le musulman, il doit faire des efforts pour être bienfaisant envers les gens et être bienfaisant également envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et même les animaux. Et j'ai détaillé ce sujet lors de l'explication du 17e hadith parmi les hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Vous pouvez trouver le cours sur le site annasiha.com. La troisième sorte de bienfaisance, on a dit, elle consiste à ne pas faire tes œuvres. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il accomplit une œuvre, il l'accomplit de la meilleure manière. En effet, il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par l'imam al-Tabarani, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Certes, Allah aime que lorsque l'un d'entre vous accomplit une chose, qu'il l'accomplisse de la meilleure manière. » Certes, Allah aime que lorsqu'un d'entre vous accomplit une chose, qu'il l'accomplisse de la meilleure manière. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc ceci fait partie de la bienfaisance. Lorsque tu accomplis une œuvre, même une œuvre mondaine, accomplis-la de la meilleure manière. Ne sois pas négligent vis-à-vis des œuvres que tu accomplis. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, après cela, après avoir mentionné tout ce qui concerne les trois degrés de la religion et leurs preuves tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné une preuve générale qui est une preuve de l'ensemble de ce qu'il a mentionné dans ce fondement, c'est-à-dire des trois degrés de la religion, l'islam, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance, ainsi que de leurs piliers, comme on va le voir dans ce hadith, incha'Allah ta'ala. Il a dit, rahimahullah, وَالدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ. Et la preuve tirée de la sunnah, c'est-à-dire la preuve de l'ensemble de ce qu'il a mentionné précédemment. Hadith ou Jibril al-Mashhur. Donc, on va maintenant voir cette preuve tirée de la sunnah et qui est ce hadith de Jibril alayhi salam. Lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et Jibril est venu sous apparence humaine et s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé au sujet de l'islam, au sujet de l'iman et au sujet de l'ihsan. Puis il a interrogé au sujet de l'heure et de ses signes, comme on va le voir dans le hadith, incha'Allah ta'ala. Donc ce hadith, il est rapporté ici par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, « بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم » Alors que nous étions assis auprès du prophète, صلى الله عليه وسلم. Et ceci faisait partie des habitudes des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils se réunissaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Et ils apprenaient de lui la science. Ils écoutaient ses réponses profitables aux questions que les gens lui posaient. Donc, alors qu'ils étaient ainsi assis, comme à leur habitude, « Ittala'a alayna rajulun, shadid bayad thiyab, shadid sawad sha'ar » Un homme s'est présenté à eux, et il avait des vêtements très blancs et des cheveux très noirs. Et cet homme, comme vous le savez, c'était Jibril alayhi salam, qui est venu sous une apparence humaine. Il n'est pas venu sous sa forme angélique, mais il a pris l'apparence d'un homme. Ceci nous prouve donc que les anges, ils peuvent prendre l'apparence humaine par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, « La yura alayhi atharu safar » On ne voyait sur lui aucune trace du voyage et personne parmi nous ne le connaissait. Ils se sont donc étonnés, radiyallahu ta'ala anhum. Cet homme, il ne vient pas de voyage, car il n'a aucune trace de voyage sur lui. En effet, celui qui voyage, cela se voit sur ses vêtements, cela se voit sur son visage, sur sa fatigue également à l'époque. Les voyages étaient très éprouvants. Il se peut que le voyageur avait de la terre sur son visage, de la terre sur son vêtement. Mais cet homme, il avait les vêtements très blancs, les cheveux très noirs, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de poussière sur lui. Donc, il ne venait pas de voyage. Mais personne parmi eux ne le connaissait. Donc ce n'est pas un voyageur, mais il ne faisait pas partie des gens de Médine. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient donc étonnés. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui venait d'arriver dans leur assise? Et on voit à travers cela que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont observé cet homme. Et ils se sont même parlé entre eux. Car Omar, radiyallahu ta'ala anhum, il a dit « Personne d'entre nous ne le connaissait ». C'est-à-dire qu'ils se sont interrogés les uns les autres afin de savoir si certains parmi eux connaissaient cet homme. Donc il n'y a pas de mal en cela. Lorsque tu arrives dans un endroit dans lequel personne ne te connaît, tu ne dois pas réprouver le fait que les gens te regardent et t'observent, car ils s'interrogent à ton sujet, il n'y a pas de mal en cela. Car s'il y avait un mal, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait blâmé ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, pour cela. Mais le fait qu'il ne leur ait rien dit, ceci montre qu'il les a approuvés en cela, et qu'il n'a pas considéré leur acte comme un acte blâmable. فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ensuite, cet homme, il s'est assis devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis à la manière d'un étudiant devant son enseignant. وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ Il a collé ses genoux aux genoux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ Et il a posé ses mains sur ses cuisses. فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ Et il lui a dit, oh Muhammad. Il l'a donc interpellé par son prénom, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, oh messager d'Allah. Il se peut qu'il ait fait ça, alayhi salam, afin que les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, pensent qu'il venait de la campagne et que c'était un bédouin. Car il faisait partie de l'habitude des bédouins de s'adresser au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi, en l'appelant par son prénom. Il a donc dit, alayhi salam, qala ya Muhammad, akhbirni anil islam. Oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. C'est-à-dire, explique-moi, qu'est-ce que l'islam? فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا L'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison si tu en as les capacités. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici il a répondu au sujet de l'islam en exposant ses cinq piliers. Car ces piliers, c'est ceux qui sont indispensables pour le musulman. Il est indispensable pour la personne, afin de concrétiser son islam, d'accomplir ces cinq piliers et de le mettre en pratique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une réponse concise. Et ce, car cela est plus simple pour le retenir. Ainsi l'étudiant, ou celui qui écoute, cela sera simple pour lui de mémoriser cela. Alors que s'il avait donné une longue réponse pour expliquer l'islam en détail, alors il se peut que certains, dans l'assise, auraient du mal à retenir l'ensemble de ce qu'il a mentionné. Alors qu'en donnant une réponse concise, cela permet aux questionneurs, ainsi qu'aux gens présents, de retenir la réponse et d'en profiter, incha'Allah ta'ala. Ensuite, Jibril alayhi salam a dit, Sadaqta, tu as dit vrai. Fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiqu. Omar radiallahu ta'ala anhu dit, nous nous sommes donc étonnés. Il le questionne pour ensuite l'approuver et lui dire tu as dit vrai. Donc ceci nous montre qu'en réalité, il connaissait la réponse à la question. Il n'a pas posé la question pour prendre connaissance d'une chose qu'il ignorait, mais il connaissait la réponse à la question. Mais pourquoi a-t-il fait cela? La réponse, on va la découvrir à la fin du hadith, incha'Allah ta'ala. Thumma qal, أخبرني عن الإيمان. Ensuite il a dit, informe-moi au sujet de la foi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il lui a mentionné les six piliers de la foi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqués dans ce fondement. Donc, il lui a mentionné premièrement les cinq piliers de l'islam. Puis,
les six piliers de la foi.
Car comme on l'a dit, l'islam et l'iman, l'islam et la foi, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, l'islam désigne les œuvres apparentes, les cinq piliers de l'islam. Alors que la foi, l'iman, elle désigne les œuvres cachées, les œuvres intérieures, tout ce qui est lié aux croyances. Donc lorsque l'islam et l'iman sont mentionnés ensemble, ils ont un sens différent. Mais lorsqu'ils sont mentionnés séparément, alors l'un désigne l'autre. C'est-à-dire que lorsque tu mentionnes l'islam, alors cela comprend également l'iman, cela comprend également la foi. Car une personne, elle ne peut pas être musulmane si elle n'a pas la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quiconque mécroit en l'un de ces piliers, il ne fait pas partie des gens de l'islam, mais c'est un mécréant et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la foi, elle ne peut pas être valide sans l'islam. Et l'islam, il ne peut pas être valide sans l'iman. Donc lorsqu'ils sont séparés, l'un désigne également l'autre, ils ont le même sens, mais lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, l'islam désigne les œuvres apparentes et l'iman les œuvres cachées. Ensuite, il a dit « Sadaqta ». Il lui a encore dit « Tu as dit vrai ». Puis il lui a dit « Fa'akhbirni anil ihsan ». Informe-moi au sujet de la bienfaisance. « Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an ta'buda Allah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak ». C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors lui certes te voit. Donc comme on l'a vu au début du cours, ceci est la phrase que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée en tant que pilier de la bienfaisance. Donc ceci est la bienfaisance. Comme on a dit, le bienfaisant, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait, avec une certitude complète, avec une foi complète. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si Allah subhanahu wa ta'ala était devant lui. Et s'il n'atteint pas ce degré-là, alors il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit dans chacun de ses actes. Alors ceci va le pousser à quoi? Ceci va le pousser à parfaire son œuvre et adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Ensuite il a dit, alayhi salam, fa'akhbirni ani sa'a, informe-moi au sujet de l'heure. Donc après avoir questionné sur les trois degrés de la religion, comme vous l'avez vu, dans le même ordre que l'auteur, rahimahullah, les a mentionnés, il l'a interrogé au sujet de l'heure, c'est-à-dire au sujet de la venue de l'heure, le jour de la résurrection. Et comme cette question est une question dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Mal mas'oulu anha bi'a'lama minas-sa'il » Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. En effet, le moment de la venue de l'heure, ceci fait partie de la science de l'imperceptible, ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 34 de surat Luqman, « Inna Allah indahu ilmu sa'a » La connaissance de l'heure est certes auprès d'Allah. Et il a dit au verset 187 de surat Al-A'raf, « Yas'alunaka anis sa'a, ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu. » Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifestera en son temps. Donc la connaissance de l'heure, cela fait partie des choses dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Et nul autre que lui n'a connaissance de cela. Et méditez sur la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est interrogé, il n'en sait pas plus que le questionneur. Qui est celui qui est interrogé? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Et qui est le questionneur? C'est Jibril alayhi salam, le meilleur et le plus noble des anges. Et ces deux créatures sont les deux créatures les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le meilleur des anges et le meilleur des hommes n'ont pas connaissance de la science de la perceptible, alors à plus forte raison, autre qu'eux n'en ont aucune connaissance. Ensuite il a dit, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Alors informe-moi au sujet de ces signes, étant donné que tu n'as pas la connaissance de la venue de l'heure et du moment de la venue de l'heure. Alors informe-moi au sujet de ces signes, c'est-à-dire les signes qui indiquent l'approche de la venue de l'heure. Et les signes de la venue de l'heure, ils sont de trois catégories. Il y a les signes petits et passés, comme par exemple, comme l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des signes de la venue de l'heure qui sont petits et qui sont passés. La deuxième catégorie de signes, ce sont les signes intermédiaires qui se passe et qui continue. C'est-à-dire des signes que l'on peut voir à notre époque, ou des petits signes qui ne se sont peut-être pas encore produits, ou alors qui ne cessent de se produire. Comme ce que il va mentionner comme exemple après, et qu'on va voir après, inshallah ta'ala. Et la troisième catégorie de signes, ce sont les grands signes de la venue de l'heure. Comme la sortie du Dajjal, la sortie du faux messie, la descente de Isa alayhi salam, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, et autres parmi les grands signes de la venue de l'heure. Donc ici, il l'a interrogé au sujet des signes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, « Antalid al-amatu rabbataha » C'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Certains savants ont dit que ceci désigne le fait qu'à la fin des temps va se multiplier l'ingratitude et le mauvais comportement de la fille envers sa mère. C'est-à-dire qu'elle se comportera avec sa mère comme une maîtresse se comporte avec son esclave. Elle aura un mauvais comportement envers elle. Et ceci fait partie des signes de la venue de l'heure. Ensuite, il lui a dit « Antara al-hufata » et que tu vois « al-hufa » c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de chaussures. Tellement ils sont pauvres, ils n'ont pas de chaussures. « Al-ura » ceux qui sont dévêtus. À cause de leur pauvreté, ils n'ont pas de vêtements. « Al-aala » c'est-à-dire les pauvres, les besogneux. « Ri'a al-sha'i » les bergers. C'est-à-dire qu'ils ont donc ces quatre caractéristiques. Ils n'ont pas de chaussures, ils sont dévêtus, ils sont pauvres et ils sont bergers. Et qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet? Donc c'est que tu vois ces gens pieds nus, dévêtus, besogneux, les bergers, yatata'awaluna fil bunyan, se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. C'est-à-dire que c'était des nomades, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent, ils vivaient dans les campagnes. Mais ces campagnes, elles se sont urbanisées. Ils sont devenus riches et ils se concurrencent alors dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. Donc, il a mentionné ce deuxième signe. Ces gens qui étaient nomades, qui étaient pauvres au point d'être dévêtus et d'être sans chaussures de marché pieds nus, ils sont devenus tellement riches qu'ils ont urbanisé les campagnes, au point de se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes, alors que ceci ne faisait pas partie de leurs habitudes. Ceci fait donc partie des signes de la venue de l'heure. Et comme vous le savez, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Mais toutes ces paroles ne sont que révélations de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on observe aujourd'hui la situation de beaucoup de gens dans de nombreux pays. Comment leurs situations ont changé? Comment ils étaient pauvres et sont devenus riches, ont urbanisé les campagnes et se concurrencent maintenant dans la construction de buildings, d'immeubles immenses. Et ceci nous montre la véracité de ce que nous a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, il a dit Umar radiallahu ta'ala anhu, famada falabithna maliya. Il est ensuite parti, c'est-à-dire il est sorti, il les a quittés et nous avons tenu un petit moment. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? Et dans une autre version, savez-vous qui est le questionneur? قلت الله ورسوله أعلم. Omar il a répondu Allah et son messager savent mieux. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit alors هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. C'était Djibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc cet homme qui est venu et qui a posé ces questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Djibril alayhi salam qui est venu sous une apparence humaine. Et il a posé ces questions pourquoi? Dans le but d'enseigner la religion aux gens qui sont présents. Et ce sous la forme de questions-réponses avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que lorsqu'il posait la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait « Sadaqta, tu as dit vrai ». Il avait connaissance de la réponse. Mais il posait la question dans le but de quoi? Dans le but d'enseigner la religion aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc ce hadith, comme vous le voyez, il comprend de nombreux bénéfices. Mais on ne peut pas tous les citer ici et on se contentera simplement de mentionner rapidement 5 points avant de terminer. Premièrement, ce hadith, il nous prouve que la religion, elle comprend bien 3 degrés. Le premier est l'islam, le second est l'iman, la foi, Et le troisième est l'ihsan, la bienfaisance. Et chacun de ces degrés comporte des piliers. Comme on a vu les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi et le pilier de la bienfaisance. Deuxièmement, il y a dans ce hadith l'enseignement d'une méthode très bénéfique d'apprentissage, qui est la méthode des questions-réponses. C'est-à-dire qu'une personne interroge une autre, pas dans le but de connaître ou de prendre connaissance de la réponse à cette question, mais dans le but d'enseigner aux gens présents cette science, afin qu'ils prennent connaissance de cela par le biais des réponses qui seront données. Et ceci est une méthode d'enseignement qui est très bénéfique, car elle attire plus l'attention des gens présents. Car la personne, elle écoute la question, et quand elle écoute la question, elle a envie de connaître la réponse. Cela l'attire. Elle va donc écouter la réponse, et ce va lui permettre, incha'Allah ta'ala, de mieux mémoriser la réponse. Troisièmement, il y a dans ce hadith une preuve que celui qui est interrogé au sujet d'une chose dont il n'a pas connaissance, alors qu'il dise « je ne sais pas » ou qu'il dise « Allahu a'lam », il renvoie la science à celui qui la possède. Mais il ne doit pas répondre alors qu'il ne connaît pas la réponse. En inventant des choses, ou en disant « je pense que », »,« il me semble que », ou « il se peut que » ou autre chose dont il n'a aucune connaissance. Ceci n'est pas permis. Ceci est interdit dans la religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il est interrogé par Jibril, alayhi salam, au sujet de l'heure. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui le questionne. Et quand il a demandé aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, savez-vous qui était le questionneur ? Ils n'ont pas fait des suppositions, c'était un bédouin, c'était ci, c'était ça, non. Ils se sont empressés de dire, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Donc ceci nous indique que lorsqu'une personne est interrogée sur une question religieuse, une question liée à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas permis de faire des suppositions ou d'inventer des réponses. Mais s'il a la réponse, alors alhamdoulilah, il répond et il la donne. Mais s'il n'en a pas connaissance, alors il dit Allahu a'lam, Allah est plus savant. Ou bien il dit je ne sais pas. Et il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. L'imam Malik, rahimahullah, un homme est venu le voir et lui a posé 40 questions. L'imam Malik, rahimahullah, il a répondu seulement à 6 questions. Et aux 34 autres, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « je ne sais pas ». Le questionneur, il lui a dit « je suis venu de très loin ». Et on rapporte qu'il venait du Maghreb. « Je suis venu de très loin, j'ai voyagé, je me suis fatigué et j'ai fait tout ce voyage pour que tu me dises « je ne sais pas ». Que vais-je dire aux gens à mon retour ? L'imam Malik, rahimahullah, en toute modestie, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Retourne à ton peuple et dis-leur que Malik ne sait pas. Rahimahullah ta'ala. Et c'est ainsi qu'étaient les imams des salaf. Ils ne s'imposaient pas de répondre à une question dont ils n'avaient pas connaissance. Et d'ailleurs, certains savants ont dit qu'il fait partie de la baraka, de cette réponse que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a donnée à cet homme, que son madhhab, sa voix, dans la jurisprudence, où elle s'est répandue le plus. Elle s'est répandue le plus dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays du Maghreb. Donc, là où Malik, rahimahullah, a dit qu'il ne savait pas, sa science, elle s'est propagée. Sa science, elle s'est propagée chez les gens à qui il a dit qu'il ne savait pas, rahimahullah ta'ala. Donc, ce n'est pas une honte lorsqu'on t'interroge sur un sujet de la religion, même si c'est une question qui peut paraître simple, ce n'est pas une honte pour toi de dire « je ne sais pas ». Il n'y a aucune charge qui t'est imposée. Et j'ai d'ailleurs écouté le cheikh Saleh al-Luhaydan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, lors d'une de ses assises dans la mosquée sacrée de la Mecque. Il parlait de ce sujet et il mettait sévèrement en garde, notamment les étudiants en sciences, contre le fait de répondre aux questions dont ils n'ont pas connaissance. Et il a dit, hafidhahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qu'il n'est pas permis de faire des suppositions. Tu ne dois pas dire « peut-être que la réponse est ceci ou cela » ou « je pense que c'est ceci ou cela ». Non. Si tu connais la réponse, réponds avec science et clairvoyance. Si tu ne la connais pas, alors dis « je ne sais pas » ou « Allahu a'lam ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens venaient lui poser des questions, alors qu'il recevait la révélation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on lui posait une question, il ne s'empressait pas de répondre. Mais il attendait la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, au verset 219, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Donc les gens viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interroge à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attend la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dis, dans les deux il y a un grand péché. Et il y a de nombreux versets comme cela dans le Coran. يسألونك عن الأهلة. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. قل هي مواقيت للناس والحج. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et pour le pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était interrogé et qu'il n'avait pas la réponse, il attendait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à plus forte raison aux musulmans, lorsque tu es interrogé, lorsque t'on pose une question, si tu n'as pas connaissance de la réponse, alors ne réponds pas avant d'interroger plus savant que toi. Mais ne t'empresse pas, car il y a en ceci un grand danger. Et en plus de cela, c'est un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, même à ceux dont il ne connaît pas les réponses, alors il s'est ainsi mal comporté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pris le risque de commettre l'un des plus graves péchés qui est de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Quatrièmement, ce hadith, il nous prouve le bon comportement que doit avoir l'étudiant en science. Comment il doit se comporter avec son enseignant? Vous voyez Jibril alayhi salam, comment il est venu? Il est venu bien habillé, avec des habits propres et blancs éclatants. Il avait les cheveux noirs, c'est-à-dire qu'il était propre. Et il s'est ensuite assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux à ses genoux et il a posé ses mains sur ses cuisses. Donc l'étudiant en science, c'est ainsi qu'il doit se comporter. Lorsqu'il est dans une assise de science, lorsqu'il est devant son enseignant, et parmi les erreurs répandues aujourd'hui, dans les assises de science, comme on le voit dans certaines mosquées, l'enseignant vient, que ce soit un étudiant en science, un cheikh ou autre, et les gens de la mosquée, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur les murs, autour de la salle. Ceci ne convient pas. Ceci est un manque de comportement envers la science et envers l'enseignant. Il convient aux étudiants, il convient aux personnes qui se trouvent devant un enseignant, devant un étudiant ou devant un cheikh ou un savant, de s'asseoir autour de lui, de se rapprocher de lui afin de profiter de cette science qu'il est venu enseigner. Enfin, il y a dans ce hadith, comme vous l'avez vu, l'exposé de certains signes de la venue de l'heure et parmi ces signes, le fait que se multipliera dans les derniers temps la désobéissance de la fille envers sa mère. Et ceci est une chose qui est malheureusement déjà répandue à notre époque. Certaines filles se comportent avec leur mère comme une femme se comporterait avec son esclave. Et c'est elle qui commande, c'est elle qui lui donne les ordres, c'est elle qui lui impose des choses. Et la mère subit comme une esclave. Et ceci fait partie des signes de l'heure contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Donc le musulman, il doit prendre garde à la manière dont il se comporte avec ses parents. Et il doit être bienfaisant envers eux et ne pas leur désobéir et être doux et respectueux lorsqu'il s'adresse à ses parents. Il ne doit pas s'adresser à eux comme il s'adresse à ses amis. Il ne doit pas s'adresser à eux comme il s'adresse à ses enfants. Et encore moins s'adresser à eux comme il s'adresse à un esclave. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, les parents, ils ne doivent pas laisser leurs enfants agir ainsi. Ils ne doivent pas tolérer cela d'eux. Car s'ils tolèrent, ils les laissent ainsi dans le péché. Ils les laissent ainsi augmenter le poids de leur péché. Mais ils doivent leur interdire, ils leur rappeler à l'ordre et leur interdire ce mauvais comportement. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ce hadith immense. Et comme on l'a dit, les bénéfices sont très nombreux, mais on a déjà bien dépassé le temps de ce cours. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les bienfaisants. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et ce jusqu'au jour de sa rencontre. On commencera donc dans le prochain cours, inshallah, le troisième fondement qui concerne la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran. Et désolé pour avoir tardé un peu ce soir. Barakallahu fikum.